Donc je vais vous parler du livre de Matthieu ce soir dans cette série de Un livre à la fois. Donc on revient, c'est la première fois qu'on aborde un livre du Nouveau Testament, le premier évangile. Et on va s'attarder quelques mots sur le contexte et aussi la personnalité de Matthieu. Qu'est-ce qui est spécial un peu dans cet évangile par rapport aux autres évangiles? Et on va ressortir ce que j'ai appelé une pépite pour Versoix qu'on va découvrir ensemble ce soir. Alors c'est écrit, j'ai aussi été surpris moi-même, on dit toujours c'est Matthieu qui a écrit. Alors oui, traditionnellement on dit que c'est Matthieu, mais l'auteur reste inconnu officiellement, il n'y a nulle part un document qui a été montré officiellement que c'était Matthieu. C'est pas que pour Matthieu, c'est pour tous les évangiles finalement, mais unanimement depuis le deuxième siècle on l'attribue à Matthieu, donc qu'on appelle aussi Lévi, un ancien collecteur d'impôts ou bien publicain qui est devenu disciple de Jésus. Les collecteurs d'impôts, hein, comme Matthieu, sont au service de l'occupant romain. Donc ce métier est souvent méprisé par les Juifs, c'est un peu des collabos. Hein. Mais c'est lui que Jésus appelle alors qu'il est à son bureau de douane. Il lui dit « Suis-moi » et Matthieu se leva et le suivit. Jésus appelle qui il veut. Et on va garder un petit extrait de « The Chosen » où on voit Jésus qui appelle Matthieu. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ce passage. Voilà, quelqu'un l'a vu. Donc, ça montre un peu la personnalité. Alors, je trouve qu'il est assez un peu différent des autres, hein. Mais aussi la manière quand il a été appelé et puis les réactions aussi des autres quand Jésus l'a appelé. Donc, c'est un peu un disciple qui détonne, j'ai envie de dire, par rapport aux autres, hein, qui sont bien restés juifs. Ils sont méfiants face aux Romains. Lui, il bosse pour les Romains. Alors, si on peut passer l'extrait de The Chosen maintenant.
Matthew. Matthew, son of Alphaeus.
Yes.
Follow me.
Me?
Yes, you.
Whoa, whoa, whoa. What are you doing?
You want me to join you?
Keep moving, street preacher.
Do you have any idea what this guy's done? Do you even know him?
Yes.
Listen, I said to...
What are you doing? Where do you think you're going?
Guys, let me go.
Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away.
Yes.
I don't get it.
You didn't get it when I chose you either.
But this is different. I'm not a tax collector.
Get used to different.
I'm glad we passed by your booth today, Matthew.
Yes.
Shall we? We have a celebration to prepare for.
You will regret this, Matthew.
What's the tablet for?
I grabbed it without thinking. You can put it back.
No, keep it. You may yet find use for it.
Where are we going?
A dinner party.
I'm not welcome at dinner parties.
Well, that's not going to be a problem tonight. You're the host.
Voilà, donc c'est du film, hein. Il y a des aspects qui ne sont pas forcément dans l'évangile. Mais c'est intéressant de voir le type de personne que c'était, hein. Il a été appelé, il a fait un choix. Est-ce qu'il a regretté un jour, santé? Il a fait un choix radical. Et c'est lui qu'on suppose donc, qui a écrit l'évangile qui porte son nom. Donc cet évangile a été écrit entre 70 et 90 après Jésus-Christ. On pense qu'il a été écrit à Antioche de Syrie. Donc c'est un lieu qui se trouve dans le sud de la, où il y a la première église aussi, de là où est parti l'évangile. Donc c'est là qu'il aurait été écrit cet évangile. Et ce qui est aussi particulier, c'est que ça a été écrit surtout pour des juifs qui sont devenus chrétiens, donc une communauté judéo-chrétienne, des juifs convertis, même si il comporte aussi des textes à portée universelle comme hein, la mission d'évangéliser toutes les nations. Qu'est-ce qui est de particulier de cet évangile par rapport aux autres ? Donc Matthieu, il met surtout l'accent sur Jésus le Messie et le Maître qui est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc c'est le but principal de cet évangile, c'est de montrer que Jésus a été envoyé et que c'est lui qui est venu accomplir la loi et les prophètes. Mais il montre aussi que Jésus est le fondateur d'une nouvelle communauté de foi qui est l'Église. Et c'est aussi dans cet évangile que le lien est le plus clair, le mieux fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre Israël et l'Église. Voilà quelques thèmes centraux, accomplissement des prophéties, royaume des cieux. D'ailleurs, c'est le seul qui utilise ce terme royaume des cieux, on y reviendra tout à l'heure. Dans les autres, on parle de royaume de Dieu. Ici, c'est royaume des cieux, c'est un terme spécifique à l'évangile de Matthieu. La loi accomplie, que la loi a été accomplie et non abolie. Il y a plus de 60 citations de l'Ancien Testament, ce qui est très particulier, pour montrer vraiment que ce n'est pas Jésus qui a amené quelque chose de nouveau, mais qu'il accomplit cette loi qui était dans l'Ancien Testament. Il y a une structure particulière par ces grands discours aussi qu'il y a, notamment le sermon sur la montagne, et c'est là-dessus qu'on va s'attarder plus longtemps tout à l'heure. Mais aussi la mission des apôtres, les paraboles du royaume, la vie dans la communauté, et finalement dans Matthieu 24-25, ce discours eschatologique sur la fin des temps. La pépite pour nous ce soir, je l'ai trouvée dans cette deuxième partie du livre de Matthieu, dans ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Hein, les chapitres 5, 6, 7, c'est tout ce texte très particulier, le sermon sur la montagne. On a eu récemment, Andrea nous a parlé du « être sel de la terre », être lumière du monde, ça fait aussi partie de ce sermon. Et je m'attarderai sur ce qui est juste un peu avant, qu'on appelle généralement les béatitudes. Que signifie le mot béatitude ? Peut-être que ça vient du latin beatus, hein, qu'on traduit en français béa. On ne l'utilise plus tellement, le mot béa aujourd'hui. Le dictionnaire Robert dit exagérément satisfait et tranquille. Moi, je trouve que ce mot a un peu une connotation négative. Je ne sais pas comment vous dites. Un sourire béat. Un peu déconnecté de la réalité. Un peu exagéré. Un peu trop optimiste. Est-ce qu'il était ça, Jésus, quand il a parlé? Je pense qu'il devait être béat devant lui quand il parlait. Hein. C'est pas rien, hein, ce qu'il a dit. Il y a des choses qui sont juste, à première vue, au premier niveau, très difficiles à comprendre. Certaines traductions utilisaient la place de béatitude, j'aime bien, le vrai bonheur pour ce chapitre, ou les bonheurs. On comprend peut-être un peu mieux, en tout cas c'est un terme peut-être plus adapté aujourd'hui que les béatitudes. Alors je vous invite à lire ce texte maintenant ensemble, donc c'est dans Matthieu 5, les versets 3 à 12, les fameux « heureux ». Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On parle actuellement dans notre projet des 100 jours pour la culture de l'honneur, du royaume de Dieu. On prend souvent ce terme et on a parlé de l'été, on a aussi fait des cultes sur les logiques du royaume de Dieu, les cultes d'été. Et ce que je trouve toujours difficile, c'est concrètement, c'est quoi ce royaume de Dieu ? Il n'y aura pas longtemps, on discutait avec quelqu'un, on disait le royaume de Dieu vient, puis en même temps, c'est toujours pire sur la terre. Il vient vraiment ? Donc il y a quelque chose d'un peu difficile à saisir ici derrière ce terme. Mais je pense que ce texte, c'est la réponse pour moi la plus explicite de Jésus au travers de ces heureux. Ces réalités qui se trouvent un peu à la frontière entre ici où on est et le ciel. C'est son premier discours à Jésus, donc il a envoyé tout de suite les réalités du royaume. Parce qu'après, il est venu plus tard, il a souvent revenu sur ce terme des royaumes. Il a tout de suite voulu dire de quoi il s'agit. On utilise le mot ici « heureux », du grec « makarios ». Ça vous dit peut-être quelque chose. Donc en français, on traduit généralement par « heureux ». Mais en anglais, c'est intéressant, il s'est traduit par « blessed ». Blessed be. Donc on parle de béni. C'est encore une autre dimension. Heureux, on voit le bonheur. Là, béni soit ceux. En français, en général, on utilise le mot heureux ou parfois bienheureux aussi. Est-ce que cette vision est accessible dans un monde marqué par beaucoup de malheur, j'ai envie de dire, et peu de bonheur? Les formulations ici, je les trouve un peu bizarres. Ce n'est pas du cause à effet. Pour être heureux, il faut. Ou bien des recettes. Si vous faites ça, alors vous aurez ça. Le car ici, c'est plutôt le canal par lequel arrive le bonheur. C'est plutôt la conséquence que la raison du bonheur. C'est pas un car qui signifie parce que, mais plutôt par conséquence. Donc c'est un peu, j'ai trouvé un peu bizarre à comprendre ce lien toujours entre heureux car. Mais il faut plutôt le voir heureux car. La conséquence, c'est ça. Alors, je vais faire quelques commentaires sur ces neuf heureux. Parfois, on parle de huit aussi, parce que les deux derniers de persécution, c'est les deux sur le même thème, la persécution. Mais j'en ai fait deux, parce que c'est quand même pour des raisons différentes que Jésus parle ici de la persécution. Alors, le premier heureux, c'est heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Parfois, c'est traduit pauvre en esprit. Ou une traduction, j'aime bien, Nouvelle Français Courant, heureux les humbles de cœur. Les humbles, on dit les humbles ou les humbles ? Les humbles, OK. Heureux les humbles de cœur. Donc, le royaume des cieux est pour ceux, il est dit pour ceux, ou bien parfois appartient à ceux, qui reconnaissent leur place dans la création, leurs limites, leurs dépendances, bref, tout ce qu'ils ont, ils reconnaissent qu'ils le doivent à Dieu. Ils sont pauvres spirituellement, ça appartient à Dieu, tout ça. C'est accessible pleinement sur terre, et je crois que c'est notre part. Parce que la conséquence, vous avez remarqué, elle est au présent ici. Le royaume des cieux leur appartient. Ce n'est pas leur appartiendra, leur appartient. Aujourd'hui. Donc déjà ici-bas, nous pouvons affirmer que le royaume des cieux nous est acquis. Nous en faisons partie. Ce n'est pas un royaume qui sera au ciel. C'est un royaume qui est déjà là. Nous sommes déjà dans ce royaume. Nous sommes citoyens des cieux, certains disaient, et citoyens suisses ou autres. Nous avons une double citoyenneté, mais elle est réelle, cette citoyenneté du ciel. Donc notre pauvreté spirituelle, c'est notre humilité de cœur, c'est reconnaître qu'on est déjà ici, citoyen du royaume de cieux dans lequel il y a un immense Dieu et nous, nous sommes des créatures avec nos limites, etc. Le deuxième heureux, c'est heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Dans une traduction, il était écrit « Et Dieu les consolera ». Alors qu'ici, c'est... j'ai pas mis le suivant, pardon. Je vais peut-être faire un peu comme ça. Hop. Donc la consolation peut effectivement être l'œuvre de Dieu. Mais la consolation, le réconfort peut aussi venir des autres. On était hier soir, plusieurs d'entre nous, au concert Exoglorious. Et puis, à un des passages, il disait, mais des fois, vous demandez des choses à Dieu, mais vous avez peut-être la réponse par les autres. Et je pense aussi que la consolation, ça peut être ça. Hein. La consolation, alors Dieu peut nous la donner, vraiment, mais elle est souvent aussi donnée par ceux qui sont autour de nous. Donc, heureux ceux qui ont des émotions, ici, c'est des pleurs quand on est triste et qui se laissent combler dans leurs besoins liés à ces émotions. Alors, on ne sera jamais pleinement consolé sur terre de notre... Je pense qu'on a au fond de nous une peine d'avoir, une fois dû quitter ce jardin d'Éden dans lequel on était. Donc, la consolation pleine et complète, on l'aura au ciel. Et ce qu'on aura aussi, c'est que toutes ces émotions liées à la chute, hein, on parle ici de tristesse, parce qu'on pleure, on est triste, mais aussi de la peur ou des colères font aussi partie de nous aujourd'hui, mais elles seront toutes rachetées pour être remplacées par l'émotion de la joie, du bonheur éternel. Dans le ciel, il n'y aura que le bonheur. C'est un peu difficile à comprendre aujourd'hui, à toutes ces autres émotions qui sont humaines, il n'y aura plus que le bonheur. Mais la consolation nous permet déjà de goûter ici-bas au bonheur éternel. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors doux ici, c'est dans le sens d'une personne docile. Docile, ça veut dire ici dans le contexte humble, gentil, douce. Et la définition de docile, je suis allé voir ce que ça veut dire docile. Qui obéit facilement. Qui obéit facilement. Obéissons-nous facilement? Et à Dieu, est-ce que notre volonté de s'aligner à celle de Dieu, est-ce que c'est facile? On parle ici de ceux qui hériteront la terre. Donc ici, c'est vraiment la terre. La planète Terre, c'est le sol qu'on héritera, que Dieu a créé. C'est notre héritage ici, ça fait partie de notre héritage. Et nous sommes invités, moi je vois ici aussi, à prendre soin en étant doux avec cette terre, en étant docile, je vois être docile bien sûr à la volonté de Dieu pour nous, pour notre vie, mais docile aussi pour respecter des lois naturelles que Dieu a créées. Je vois ici une invitation à prendre soin de cette terre. Dieu a créé la terre avec des lois naturelles. Si à un moment donné, il y a trop de CO2, on sait que ça riche. Donc, il y a des éléments. Si on dépasse ça, on va trop loin. On endommage cette terre que Dieu a créée. Donc, il est bien dit qu'on héritera d'une nouvelle terre. Ça, c'est écrit dans la Bible. Mais ce sera une terre qui sera toute neuve. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera... Ça ne veut pas dire que celle qu'on a aujourd'hui sera détruite. En tout cas, c'est ma compréhension eschatologique de mon côté. Elle ne sera pas détruite. Sinon, pourquoi on parlerait d'un héritage On ne détruit pas un héritage s'il est si précieux comme la terre créée par Dieu. Ici, on parle d'un héritage de la terre. Donc la terre, l'actuelle, c'est notre héritage dont il faut prendre soin ici-bas en attendant qu'elle soit pleinement restaurée. C'est pour ça qu'ici, c'est aussi au futur, ils hériteront. Mais on l'hérite déjà ici, ça commence déjà ici et on l'héritera, cette nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle terre, on l'héritera pleinement au ciel. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc ici, c'est justice vraiment au sens de lutter en faveur de la justice, du respect de normes. On peut s'engager par exemple, lutter contre la traite humaine, des gens qui s'engagent, prostitution, lutter contre la traite humaine. Là, il y a vraiment une injustice flagrante. Et ça, c'est heureux ceux qui ont faim et soif. On parle de cette justice-là ici, en premier. Ce n'est pas de la justice que Dieu nous justifie. Je vois ici derrière la justice, c'est souvent une émotion de colère qui est en jeu. Quand il y a une injustice, ça nous met en colère. Quand des femmes doivent se prostituer, ça nous met en colère. Donc, la conséquence ici, on voit la conséquence d'une colère qui pousse à vouloir de la justice, notamment une justice sociale, c'est un rassasiement ici. C'est une colère apaisée car justice est faite. Donc une invitation ici à lutter contre les injustices en étant aussi toutefois conscient qu'elles resteront jusqu'à la fin. Se dire que toutes les justices, injustices seront abolies ici-bas, j'y crois pas du tout non plus. Il y aura toujours des injustices, il y aura toujours des gens plus riches que d'autres, il y aura toujours des gens plus pauvres, il y aura toujours des gens plus, qui vivent dans des contextes qui nous paraissent injustes. Jusqu'à la fin du monde, ça sera comme ça, mais on aura une pleine justice, elle régnera pleinement quand on sera au ciel. Donc aussi, seront rassasiés. Il y a quelque chose de l'ordre, pleinement rassasiés, on le sera au ciel. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. On reçoit ce qu'on donne, on récolte ce qu'on sème. Ça, c'est connu aussi, c'est dans la Bible. Et c'est intéressant, c'est la seule vertu ici, le seul heureux qui a cet effet de réciprocité, c'est la bonté. Voulez-vous que les autres soient bons envers vous ? Alors, soyez bons envers eux. Ça paraît un peu bête, hein ? Des fois, on entend, aussi dans notre famille, des fois, il n'a pas été sympa avec moi, pourquoi moi je le serais ? Il n'a pas été sympa avec moi, pourquoi moi je serais sympa avec lui ? Et si on prenait la chose par l'autre bout, je veux être sympa avec lui, ou elle, faire preuve de bonté, pourquoi ne le serait-elle pas non plus avec moi après ? Donc il y a quelque chose de l'ordre de, la bonté est quelque chose qui se récolte. Je suis bon, alors je suis bon, les autres ont plus tendance à être bons avec moi s'ils sont aussi traités comme ça, s'ils ressentent de la bonté de notre part. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc la pureté du cœur ouvre nos yeux à Dieu. C'est quoi la pureté du cœur ? Le cœur, c'est très large, dans le sens hébreu, ça, c'est les pensées, c'est le cœur, c'est nos émotions, tout ce qui est là. Donc ça commence par ce que nous pensons. On peut des fois penser à faire le mal ou à dire du mal. Surtout que c'est souvent de là que découlent nos actions. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Et heureusement que Dieu nous pardonne nous-mêmes, on ne pourrait pas faire grand-chose, il nous a pardonnés. Mais on reste des pécheurs. C'est pour ça que notre vision de Dieu reste imparfaite. Et nous ne verrons Dieu parfaitement et réellement qu'une fois qu'on sera auprès de lui. Nous verrons Dieu. La purification de notre cœur est un chantier permanent du disciple qui suit Jésus. Je me souviens, c'était aussi, je crois que c'était Glorieux, il nous avait montré une image. Il y avait un panneau sur son dos, chantier. Vous avez vu ces panneaux chantier ? Puis il disait, moi, ça me parlait, avec Dieu, on est ça. On marche, puis derrière nous, il y a un panneau chantier, purification, transformation. Et puis jusqu'à la fin, on aura ce triangle derrière nos trucs, derrière notre dos. Donc c'est un travail, je veux dire, c'est un chantier permanent. Alors il va toujours mieux ce chantier, les trous se bouchent, la route est de plus en plus douce, peut-être quand on passe dessus, on est transformé, mais c'est un chantier permanent. Le cœur pur, ce n'est pas d'un jour à l'autre qu'il est pur. Alors on est pardonné, purifié, tout ça c'est acquis. Mais après, comment ça se transforme dans nos pensées et tout ça, notre manière de voir, etc. Ça prend du temps. Et c'est tout le travail, on parle des fois de sanctification aussi de Dieu dans nos vies. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors dans le monde actuel, procurer la paix, au niveau politique, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes heureux lorsqu'on procure la paix, lorsqu'on crée la paix, lorsqu'on est des artisans de paix. Le mot paix ici qui est utilisé, ce n'est pas le mot mais c'est erenopoios, il est lié à faire la paix. Donc ce n'est pas la paix de l'État, mais c'est qu'on est des artisans de paix. Donc on ne parle pas d'être paix, d'être dans la paix, mais on contribue à cette paix. Et pourquoi sont-ils appelés fils de Dieu ? Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui, il a créé ce pont de paix qui nous permet d'être en relation avec lui, d'être fils et filles de Dieu. C'est notre identité. Et à la suite de Jésus, le Fils de Dieu, nous sommes appelés à être des créateurs de paix autour de nous. Comme Jésus a été ce créateur de paix qui nous permet aujourd'hui d'être à notre place en paix avec lui. Ça, c'est les 7 premiers de cette liste des béatitudes. Il en reste 2, et j'ai envie de dire, ici, on navigue en vent contraire, les 2 derniers. Et ça ne dépend plus de nous. Les premiers, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est heureux ceux qui font, donc il y a quelque chose de l'ordre, on peut y aller. Nous, on est appelés à le faire. Par contre, ce qui vient après, c'est la slide suivante, on est dans une autre situation. Et c'est peut-être ça, des fois, qui nous pose problème d'être le plus dans ce passage. Peut-on vraiment être heureux quand on est persécuté? Eh bien, oui, c'est possible, c'est réel. En tout cas, on entend les témoignages aussi de gens dans les pays persécutés. On sent qu'ils sont heureux. Ce n'est pas dit que c'est forcément facile, mais ils peuvent être heureux. En tout cas, c'est la vérité prononcée par Jésus ici, qui dit que dans ce premier, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Dans la Nouvelle Français courant, pour la justice, c'est à cause de leur combat pour la justice. Donc, comme la pauvreté spirituelle s'est accessible pleinement sur terre, ici on parle le royaume des cieux leur appartient. La conséquence est au présent. Et ici, je vois ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est des personnes qui s'engagent pour la justice sur terre. Si je prends ceux qui ont aboli la peine de mort, ils sont engagés pour avoir une justice à un moment donné. Nelson Mandela, à l'apartheid d'Afrique du Sud, il s'est engagé pour que l'injustice tombe entre les Noirs et les Blancs. Martin Luther King, droit civique des Noirs aux États-Unis. Donc là, c'est lutter contre des injustices. Le royaume des cieux leur appartient aux personnes qui luttent et qui sont persécutées pour ça. Martin Luther King, il a été tué, hein, finalement. Il a non seulement été persécuté, mais il a payé de sa vie, finalement, pour ça. Et le dernier heureux, c'est « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur France 2, les évangéliques, quelqu'un l'a vu? Et là, j'ai un peu l'impression, c'est encore rien, mais qu'on touche un peu une forme de persécution, je dirais passive. C'est pas encore, on ne nous met pas en prison, hein, mais un peu une persécution passive. C'est comme si c'est quelque chose qui n'est plus tout à fait de l'ordre du factuel, mais qu'il y a quelque chose qu'on, un a priori contre. Ici, c'était les évangéliques, en l'occurrence. Et heureux serez-vous quand France 2 fera des émissions comme ça sur les évangéliques? Et moi, ça me parle, on est premier à dire, mais c'est pas normal. Tadam. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout. Hein. Nous, au réseau, il faut aussi de la com. À un moment donné, il ne faut pas se laisser faire. Mais il y a quelque chose de l'ordre aussi qu'on peut même là se sentir à notre place. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. Ça, c'est le futur. Récompense au ciel. Elle n'est pas encore ici-bas, celle-là. C'est vraiment une joie anticipatoire qui peut transcender toutes les situations, même celle de la persécution. Et c'est important d'avoir cette espérance. C'est nécessaire d'avoir cette espérance. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que ça. Les autres heureux avant, c'était sur terre déjà qu'il se passait beaucoup de choses. Hein. Et c'est toujours un risque à un moment donné d'être juste heureux, d'attendre d'être au ciel. Mais on peut déjà ici-bas goûter de certaines choses, de ce bonheur. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser comme pépite pour nous, pour les LG de Versoix. Je vois ces béatitudes, ces bonheurs, ce vrai bonheur comme un diamant d'une grande valeur qui comporte pour chacune 9 faces de l'un des bonheurs, un peu comme ce diamant des bonheurs ou des béatitudes. Ces 9 faces que ceux qui sont heureux, ceux qui reconnaissent leur pauvreté, qui pleurent, qui sont doux, qui ont faim et soif de la justice, qui font preuve de bonté, qui ont le cœur pur, qui procurent la paix, qui sont persécutés pour la justice, qui souffrent, j'ai résumé, qui souffrent à cause de Jésus. Et j'aimerais vous distribuer ici quelque chose de concret, une feuille. Je vais peut-être juste la commenter avant de la faire passer. Ça sera je crois que c'est Andrea, tu disais avant, pour que je puisse apporter quelque chose qui va nous occuper. Quelque chose comme ça, quelque chose qui va nous occuper. Il y aura quelque chose qui va vous occuper ici, ces 2 semaines de vacances, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est un peu clair, pas grand-chose, mais c'est une forme géométrique. C'est un décaèdre, un polyèdre à 10 faces. Qui est là. Le diamant des bonheurs de béatitude. Et puis, ici à droite, il y a tous ces heureux. Donc, si ça vous dit, je vous distribue à chacun. C'est la petite chose concrète que je vous laisse. Vous allez pouvoir faire, si vous êtes bricoleur, un petit peu faire des origamis. Vous avez peut-être un peu congé. Avec ça, vous arrivez à faire un décaèdre à 10 côtés. Et vous pouvez mettre sur chaque côté, heureux ceux qui reconnaissent. Vous allez pouvoir coller chaque élément dessus. Vous allez peut-être pouvoir aussi le mettre en valeur. Ça va donner un petit diamant de cette grandeur-là. Vous allez pouvoir garder comme élément qui vous rappelle le vrai bonheur. Ce vrai bonheur ou ces bonheurs. Alors, je vous invite à vous servir. Je le fais passer. Et vous pouvez chacun prendre une feuille. Pourquoi c'est important d'être heureux? Je terminerai avec ça. La première chose, je ne l'ai pas mis là, mais je crois qu'on a envie d'être heureux ou bien. J'ai l'impression que Dieu nous a créés pour être heureux en premier. Pour avoir du plaisir et de la motivation à suivre Dieu. Je peux même imaginer que quelqu'un qui est persécuté, il peut avoir du plaisir, de la motivation à suivre Dieu. Alors le plaisir, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose que le bonheur. Mais aussi pour avoir la capacité de vivre selon les valeurs et les logiques du royaume de Dieu. On a besoin d'être heureux, c'est important d'être heureux pour pouvoir refléter comme c'est ce diamant, refléter, rayonner Dieu au travers des fruits qu'on porte, ces diamants qui ont toute une brillance. Et aussi pour avoir de l'énergie et la force pour faire face à l'adversité. Alors n'attendons pas seulement le ciel, hein, cette joie anticipatoire, mais laissons-nous prendre dans cet élan de bonheur tel que décrit dans ces béatitudes, dans ce vrai bonheur ou dans ces bonheurs. Les heureux, hein, liés à l'opposition, à la persécution, et c'est un hasard qu'ils sont mis en dernier. Je me suis posé la question, pourquoi ils viennent à la fin? Alors je dis peut-être pas, que ce n'est pas un hasard, peut-être que Jésus les a cités à la fin. Il serait un peu comme l'aboutissement ou peut-être le comble du bonheur. C'est celui qu'on peut être heureux même quand tout pourrait nous rendre malheureux ou que les circonstances n'ont rien de joyeux, n'ont rien qui peut naturellement nous donner du bonheur. Donc n'oublions pas que le bonheur qui comprend de la joie, du plaisir est voulu par Dieu et qui nous accompagne déjà ici-bas et de manière encore plus grandiose lorsqu'on sera au ciel. Et la louange qu'on a fait ce soir, qu'on a fait hier soir, elle est propice pour cela. Ce qui était hier soir, j'ai l'impression qu'on vivait un peu dans le ciel déjà. Cette joie anticipatoire, on était un peu comme au ciel, mais on était à l'aréna, on avait les pieds sur terre, on n'a pas décollé, on était bien là. Et c'est une photo de hier soir. Donc on était passé 3000 personnes, c'était assez extraordinaire, qui louaient Dieu, simplement, j'ai envie de dire simplement, louaient Dieu, exprimaient toute la grandeur, toute la bonté qu'on a auprès de lui. Et je terminerai avec ce verset de David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il l'a déjà dit quelques centaines d'avant, ou 1000 ans avant que Jésus l'ait dit ici. Il a pu dire ça parce qu'il connaissait son Dieu, il savait qu'on pouvait être heureux dans les situations. Lui a fait la guerre, lui a perdu, lui a été pécheur aussi, et il a pu dire ça, oui, le bonheur en Dieu et la grâce que Dieu nous donne, nous accompagne tous les jours de notre vie. Oui, le bonheur du royaume des cieux est déjà pour nous ici-bas. Amen. Et j'aimerais encore prier. Seigneur, ce passage nous défie et l'on a peut-être un peu plus pu l'appréhender ce soir de dire ton royaume est déjà là. Ton royaume est déjà parmi nous, comme tu l'as dit. Ton royaume est ici parmi nous. Ton royaume est dans nos familles. Ton royaume est dans notre Église, ton royaume est ici à Versoix. Et nous pouvons déjà goûter quelque chose de ce royaume qu'on attend tous, ce royaume de ton retour et de vivre avec toi éternellement. Mais fais-nous cette grâce de vivre toujours plus heureux et bénis ici en bas, Seigneur. À travers les circonstances qui peuvent nous attrister, qui peuvent nous mettre des poids sur nous, de rester actifs, de rester aussi connectés à toi qui nous dit que nous sommes heureux, que nous sommes bénis. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous fais. Amen.